9h en temps universel, 11h ici à Paris. Merci d'écouter RFI. Le journal international, c'est en compagnie d'Olivier Sherman. Bonjour Olivier.
Bonjour Namouri, bonjour à toutes et à tous. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, pas d'accord à vue entre les deux pays, indique Pékin ce matin, contrairement à ce que disait un peu plus tôt le président américain qui invoquait la possibilité d'un accord commercial équitable avec la Chine. En Turquie, un nouveau grand rassemblement hier à Ankara, avec surtout des jeunes pour sauver la démocratie. Depuis le début de la mobilisation, de très nombreux manifestants se revendiquent de la figure d'Atatürk, premier président turc. Nous retrouverons Anne Handlauer qui était avec les manifestants. Enfin, en Argentine, des footballeurs ont voulu à leur manière rendre un dernier hommage au pape François. Théo Conscience à Buenos Aires nous fera vivre ce moment. C'est l'une des pires attaques contre la capitale ukrainienne depuis le début de la guerre. 9 personnes tuées et plus de 60 blessées par des missiles russes à Kiev. C'est un bilan provisoire qui n'a cessé de s'alourdir pendant la nuit. Parmi les blessés, 42 personnes sont hospitalisées, dont 6 enfants. Des bâtiments résidentiels ont été endommagés. La recherche de personnes sous les décombres est en cours. Des frappes répétées de missiles ont aussi frappé la ville de Kharkiv et fait au moins 2 blessés. Cette nuit, Donald Trump s'en est pris violemment à Volodymyr Zelensky. Il l'accuse de tenir des propos incendiaires sur la Crimée. « Je pense avoir un accord avec la Russie », a lancé Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain déplore une discussion plus difficile avec Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky qui écourte une visite en Afrique du Sud pour rentrer en urgence en Ukraine. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Pékin rejette fermement l'existence de négociations en cours avec Washington. Toute affirmation concernant une avancée dans des discussions sino-américaines relève de la pure spéculation et ne repose sur aucun fait concret. Voilà la déclaration d'un porte-parole du gouvernement chinois. Cela fait suite aux propos du président américain Donald Trump ayant suggéré l'éventualité d'un accord entre les deux puissances engagées dans un bras de fer commercial. Dans ce contexte, les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se poursuivent à Washington, les premières depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche et donc les premières depuis l'imposition des nouveaux droits de douane américains. Ça a, on le sait, fait paniquer les marchés, ils se sont calmés mais restent assez volatiles. Alors, est-ce que c'est la panique à tous les étages à la réunion du FMI? Pas vraiment, nous dit l'une des participantes, Anne-Laure Kichel, présidente et fondatrice de la société de conseil aux États Global Sovereign Advisory.
Alors ça n'a pas des airs de réunion de crise, mais c'est vrai que c'est une atmosphère un peu particulière. Alors aujourd'hui, il y a eu, et c'était évidemment très très suivi, puisque le secrétaire d'État au Trésor américain s'est exprimé. Il a commenté plusieurs sujets, il a commenté les progrès qui étaient faits sur les fameux deals qui sont en cours d'être discutés. Et ensuite, il s'est exprimé, c'était la semaine pour le faire, sur justement le FMI et la Banque mondiale. Et tout le monde attendait ça, puisque comme l'administration américaine a pu être assez radicale par rapport à certaines administrations ou certaines initiatives, il dit nous allons coopérer avec ces deux organisations, FMI, Banque mondiale, mais nous les rappelons à leurs devoirs. Et en particulier, il a été extrêmement sévère avec le FMI, disant que le FMI devait être dans son rôle, qui était de s'occuper de la balance des paiements des États. Ce que ça veut dire entre les lignes, c'est le FMI, à ces derniers temps, s'est beaucoup préoccupé du climat, par exemple, et des sujets de vulnérabilité, et c'est probablement pas son rôle premier.
Anne-Laure Kichel, qui était la grande invitée ce matin sur RFI, interrogée par Gaëtan Plenet. Un entretien à retrouver, bien sûr, sur RFI.fr. Évolution dans les négociations entre l'AFCM23 et les délégués de la présidence congolaise. Pour la première fois, les deux parties ont communiqué officiellement sur les pourparlers tenus à Doha. Hier, dans une déclaration conjointe, les représentants de la République démocratique du Congo et ceux du mouvement armé ont annoncé avoir convenu de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Est-ce le début d'un tournant dans les discussions? Et qu'est-ce qui change concrètement? Les explications de Pascal Ligaudy.
Ce n'est pas encore un cessez-le-feu, ce n'est pas non plus une trêve. À ce stade, c'est une déclaration d'intention, un communiqué dans lequel les deux parties affirment avoir convenu de travailler ensemble à un accord. Comme RFI l'annonçait déjà, ce texte était prêt depuis le 17 avril. Il avait été élaboré 4 jours après la fin des discussions directes entre les délégués de Kinshasa et ceux de la FCM23. Il ne manque plus que l'approbation formelle de Félix Tshisekedi. C'est désormais chose faite, le président congolais a donné son feu vert. Et les documents ont été publiés dans la foulée conjointement par les deux parties. Et la prochaine étape, il s'agit maintenant de respecter les engagements pris avant d'ouvrir un véritable dialogue de fond. Parmi ces engagements, le rejet des intimidations et la volonté de créer un climat propice aux échanges. Le dialogue attendu doit porter, selon les deux parties, sur les causes profondes du conflit et sur les modalités concrètes pour ramener la paix dans les territoires de l'Est. Cette annonce intervient aussi au lendemain d'une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed El Koulaifi, en charge du dossier, et Massad Boulos, le nouveau conseiller principal pour l'Afrique à la Maison-Blanche.
Il y a un mois, le 23 mars, Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul et principal rival du président Erdogan, était envoyé en prison pour des soupçons de corruption, une arrestation qui a déclenché une vague de protestations inédite en Turquie depuis une douzaine d'années. La formation du maire déchu, le Parti républicain du peuple, CHP, a organisé hier une grande marche dans la capitale Ankara qui coïncidait avec la journée de la souveraineté nationale et des enfants, une fête nationale. Le CHP a appelé tous les opposants à marcher jusqu'au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la République de Turquie. Depuis le début de la mobilisation, de très nombreux manifestants, notamment parmi les jeunes, se revendiquent de la figure d'Atatürk. À Ankara, le reportage d'Anne Andlauer.
Nous sommes les soldats de Mustafa Kemal. C'est un slogan qu'on entend souvent depuis le premier jour dans les rassemblements de soutien à Ekrem İmamoğlu. Le maire emprisonné est un membre du CHP, le parti fondé par Atatürk il y a un siècle. Mais pour beaucoup de manifestants, notamment beaucoup de jeunes comme Belis, âgé de 23 ans,
le fait que je manifeste n'a aucun rapport avec un parti ou une idéologie en particulier. Je manifeste pour défendre le droit de vote et le droit d'être élu que le pouvoir tente de nous retirer en faisant enfermer son principal opposant. Car ce pouvoir sait qu'il sera battu aux prochaines élections. Or, ce droit de vote et d'être élu, c'est Atatürk qui nous l'a donné. Atatürk est ma ligne rouge, il est la ligne rouge de cette nation.
Un sondage réalisé à Ankara fin mars révélait que 70% des manifestants de la capitale avaient moins de 25 ans et que plus de 55% se décrivaient comme ataturkistes, suivi par 17% qui se disaient nationalistes. Rien d'étonnant pour Soudé, elle n'a que 16 ans et elle pense que la République est en danger.
Ces derniers temps, ce pouvoir fait tout pour faire oublier l'héritage d'Atatürk, pour changer notre constitution. Contre ça, nous, les jeunes, nous devons protéger la République d'Atatürk.
Des propos qui déplairaient sans doute à Recep Tayyip Erdogan, l'actuel président prétend incarner seul ce qu'il appelle la nouvelle Turquie. Un endroit Ankara RFI.
Près de 50 000 fidèles ont rendu hommage au pape devant son cercueil depuis hier matin. Les fidèles n'hésitent pas à patienter plusieurs heures pour voir la dépouille du souverain pontife qui est exposée dans la basilique Saint-Pierre. Ces fidèles pourront s'y rendre jusqu'à demain soir. On le voit, il y a des rassemblements, des célébrations, des messes un peu partout dans le monde depuis la mort du pape. Dans son pays, en Argentine, les sportifs et plus précisément les footballeurs ont tenu aussi à lui rendre un dernier hommage. Hier, des supporters de San Lorenzo, son club de cœur, se sont réunis à Buenos Aires. Un reportage de Théo Conscience.
88 235. Les supporters du club de San Lorenzo à Buenos Aires connaissent deux numéros d'abonnés par cœur. Le leur et celui du pape.
Je crois que le pape symbolisait les valeurs de San Lorenzo.
Valentine, abonné numéro 35687.
San Lorenzo est un club fondé par un curé pour sortir les enfants de la rue. Et je crois que le pape incarnait cette dimension sociale, nos valeurs et notre identité.
Le pape François avait confié qu'il ne regardait pas les matchs de San Lorenzo, mais qu'il demandait à un garde suisse de lui donner les scores de l'équipe qu'il allait voir au stade quand il était enfant. Et quand San Lorenzo gagne la Copa Libertadores en 2014, un an après l'élection de François en tant que pape, certains, comme Nacho, y voient un miracle.
Après tout ce temps sans y parvenir, après tous ces échecs, finir par la gagner alors qu'un de nos supporters était au plus près de Dieu, comment ne pas y croire ?
Le président de San Lorenzo a confirmé que le nouveau stade du club sera baptisé Papa Francisco en hommage au plus célèbre de ses supporters. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et le plus beau sport du monde, hein, disait le pape François. Je vous rappelle que ces obsèques se dérouleront samedi. Je vous prie d'écouter Radio France Internationale. Il est tout juste 11h10 à Paris. Tout de suite, priorité santé.